Mes chers amis, je voudrais dans cette introduction d'abord mentionner que ces enseignements s'adressent exclusivement à des chrétiens adultes, comme c'est bien spécifié sur le feuillet d'accompagnement et sur la jaquette qui enveloppe cet album. Il y a en effet une grande différence, à mon humble avis, et l'on s'en rend vite compte quand dans son ministère on consacre beaucoup de temps à l'écoute des âmes, entre un adulte chrétien et un chrétien adulte. C'est beaucoup plus qu'un simple jeu de mots, croyez-moi. Vous avez sans doute lu ou entendu à l'occasion une ou des descriptions de ce qu'est un adulte chrétien. Alors que j'étais jeune prédicateur de retraite, j'utilisais souvent une brève synthèse retrouvée dans un ouvrage bien connu alors, intitulé « Pour un apostolat fécond ». Et je cite « Un adulte chrétien est celui qui, libéré des contraintes ou des réflexes inférieurs de l'enfance et de l'adolescence, est parvenu à une foi éclairée et vivante, donc à base de connaissances suffisantes, enracinées dans des convictions, baignant dans le mystère de la vie du Christ et de l'Église, et recouvrant tous les secteurs de sa vie, et qui en est arrivé à l'utilisation maximale de ses virtualités biologiques et de sa vie sociale. » Fin de la citation. On trouve là un portrait synthèse d'un adulte qui a mûri et est devenu croyant et apôtre. Mais beaucoup d'adultes chrétiens, devenus ainsi bons croyants, brillants et fervents, en reste souvent là, en stationnement spirituel, pour ainsi dire, et vivent de leur rente en quelque sorte. Pour plusieurs, c'est même une fin de carrière, heureuse et fructueuse, spirituellement parlant. Par ailleurs, le chrétien adulte, lui, considère au contraire, quel que soit son âge et son expérience, qu'il ou qu'elle doit continuer à croître sans cesse spirituellement, à tous les points de vue, sans relâche, et ce, ad vitam aeternam. Et c'est donc ainsi qu'on a parfois des adultes qui sont bel et bien chrétiens, mais à la vérité, ne sont pas des chrétiens adultes, c'est-à-dire mûrs, solides, profonds, axés sur l'essentiel et surtout en essor constant. Et par ailleurs, on a des jeunes, des adolescents, qui sont déjà des chrétiens adultes véritables, car ils sont bel et bien déjà libres spirituellement, d'aplomb sur le plan de la foi et en intimité avec le Seigneur et surtout en pleine croissance continue spirituellement. Mes frères et mes sœurs de l'auditoire visible et invisible, je vous exhorte fraternellement à ce moment-ci. Soyez bien honnêtes avec vous-même et ne jouez pas avec le feu en décidant d'écouter cette série intitulée « Les 10D ». Si vous n'avez pas les qualités au nombre de 6 que je vais vous énumérer immédiatement, vous n'avez vraiment pas encore ce qu'il faut pour bien saisir et vivre les 10D. Vous risquez alors de vous compliquer la vie, celle des autres et de toute la communauté ecclésiale. Allons-y donc au pas de course. La première condition pour être un chrétien adulte, c'est d'être quelqu'un ou quelqu'une qui aime vraiment, profondément et irrévocablement l'Église, dans son ensemble et ce qui la constitue essentiellement aux yeux de Dieu. Donc quelqu'un qui aime également et respecte vraiment tous les chefs spirituels en Église, quoi qu'il arrive ou n'arrive pas à travers eux. Quelqu'un, enfin, si lui ou elle a déjà été blessé, déçu, scandalisé, exploité, bousculé, consciemment ou inconsciemment, par ou en Église, qui a déjà su pardonner. Nettoyer le dossier et, si possible, Dieu aidant, le fermer et l'oublier. Deuxième exigence. Être une personne qui, tout en étant très fidèle à l'Église et à ses dirigeants, comme je viens de le préciser, a quand même la maturité nécessaire, le courage indispensable et le discernement voulu pour bien repérer et diagnostiquer nos vrais problèmes, nos lacunes et nos faiblesses évidentes en Église. Les appeler par leur nom, en rechercher les causes et les remèdes, mais toujours avec amour, joie, paix et miséricorde, sans agressivité et sans juger ou condamner qui que ce soit en particulier. Troisième qualité, être déjà en mesure de bien percevoir et de bien interpréter les signes actuels des derniers temps, des événements en cours ou à venir et du grand avènement de Jésus, capable d'en faire une lecture, de faire une lecture de tout ce qui se passe et s'en vient avec le regard de Dieu, c'est-à-dire avec le sens et la portée que lui semble donner à ces événements et à cet avènement. Quatrième condition, posséder déjà ou vouloir ardemment vivre en Église, primo, selon le style 2 nouveau, celui d'une Église vraiment sous le pouvoir de l'Esprit du Seigneur, qui place l'Église par conséquent et ses membres en état de nouveau renouveau spirituel continu, et secondo, également avoir opté pour la troisième voie, VOIX et VOIE, d'expression en Église. C'est-à-dire, comme je l'ai déjà expliqué, l'attitude de ceux et celles qui se tiennent debout devant leurs frères et sœurs en communauté ecclésiale, mais seulement après s'être mis à genoux devant Dieu. Cinquième condition, être fin prêt ou prête au vrai de vrai combat spirituel, avec toute la maturité spirituelle chrétienne que cela exige. Comprendre sans équivoque, par exemple, que ces séries de cassettes intitulées les 10D ne veulent pas constituer une arme offensive, mais plutôt une arme défensive pour ceux et celles qui sont déjà victimes d'abus. Non pas seulement une arme chargée à blanc, mais une arme qui se voudrait chargée à fond, d'amour, de miséricorde, de sagesse, capable d'enrayer le mal et de le faire avec plein d'avantages et sans dommage. Et finalement, sixième et dernière exigence indispensable à mon avis, pour être un chrétien adulte, pour bien capter le sens et la portée des 10 dés et en faire un usage heureux et fructueux en tant que chrétien, c'est d'être apte à vivre tout cela dans une climatisation complète et continue de vérité, de charité, de liberté à 100%, toutes trois à la fois. Comme vous le savez, cette trilogie, qu'on appelle nos trois indispensables et inséparables, vérité, charité et liberté, constitue un leitmotiv majeur, un thème caractéristique du style de nouveau enseigné et vécu aux fondations. C'est donc une écoute déconseillée aux autres, à ceux qui ne possèdent pas ces qualités de chrétien adulte. Ce que je vais dire, mes amis, est trop dense, trop riche et peut-être trop franc pour leur outre, du moins en son état actuel. En effet, j'ai l'intention de partager mes confidences en toute confiance, avec le maximum de vérité, une surdose de charité, une exceptionnelle liberté spirituelle, ce qui va constituer pour plusieurs une charge d'électricité spirituelle beaucoup trop forte. Leurs fusibles ne résisteront pas, vont sauter les uns après les autres. Il y aura même dans certains cas grand danger pour que leur transformeur ou transformateur saute et que tout leur système même prenne feu. Je leur dis bien fraternellement, frères et sœurs, ne courez pas un tel risque, prématurément ou inutilement. Je vous en préviens donc très clairement et vous en prie sincèrement. On ne joue pas avec le feu, encore moins avec des explosifs. Contrairement à tous les autres enseignements, interpellations fraternelles ou proclamations prophétiques que l'Esprit du Seigneur m'a encouragé à livrer jusqu'ici et qui s'adressaient à l'ensemble du peuple de Dieu, au public des fidèles en général, le partage d'aujourd'hui, intitulé « Les 10 dés », je tiens encore à le spécifier, ne s'adresse qu'à environ 20 ou 25%, soit une personne sur 4 seulement, au grand maximum, pour le moment du moins. Si quelqu'un écoute ces cassettes, soit par pure curiosité, sans croire ou avoir digéré d'abord les trois proclamations prophétiques de 1992, soit avec un esprit d'agressivité, d'inquisition pour tenter de mieux charger, soit avec l'idée d'alimenter son animosité contre l'Église, par exemple, cette personne va se faire mal et mal faire, et elle va souffrir inutilement. Car je le redis, il faut une très très grande maturité spirituelle pour entendre tout ce qui va suivre et pouvoir bien saisir et correctement le sens et la portée juste de ce qui sera évoqué, en être ni étonné ni blessé, encore moins scandalisé ou offusqué, et surtout pouvoir comprendre que c'est par amour pour l'Église et pour mes frères et sœurs que j'ai le courage de faire semblable confident. Ceci dit, je ne suis pas naïf pour autant. Malgré cette mise au point et cette mise en garde, je ne tombe pas dans l'illusion de croire que tout est réglé pour autant. Bien, chers amis, croyez-moi, malgré ce sévère avertissement, il y en aura un bon nombre de ceux et de celles qui de toute évidence ne se qualifie pas comme auditeur ou auditrice attitrée de ces cassettes, qui vont braver les risques et se rendre victimes de cette écoute. Incapables d'admettre leur inaptitude présente à entendre et digérer avec profit les propos partagés, ce qui exige une juste connaissance de soi et beaucoup d'humilité, et ils vont s'imposer de les écouter quand même, vont s'irriter, se faire bousculer, éprouver inutilement des brûlements ou éclatements d'outre, habituellement douloureux et dommageables. Mes chers amis, je voudrais poursuivre ce partage sur un ton particulier. Celui, non pas des proclamations prophétiques, ni celui des interpellations fraternelles, ni même celui des enseignements, mais sur le ton davantage de ce que j'appellerais une conversation amicale au coin du feu. Un tête-à-tête intime, ou plutôt un cœur-à-cœur confiant et ouvert. Vous faire des aveux à la Matthieu. Installons-nous donc auprès de son feu d'amour, de joie, de paix, et relaxons. Permettez-moi alors assurer que je suis de vos bonnes dispositions, de chrétien, de chrétienne vraiment adulte, de vous ouvrir mon cœur. Car il y a encore bien des choses à nous partager, lesquelles nous serons tous fort utiles en ces temps accélérés actuels, très précieux et uniques. Je suis sûr que ces aveux que je vous réserve vont vous préparer à mieux décoder non seulement ce qui s'en vient, mais ce qui se déroule déjà à vive allure. Ce partage fraternel de cette série se veut donc un genre, et c'est une expression paradoxale, un genre d'entrevue privée à plusieurs ensemble. Comme vous le savez, ou vous l'imaginez aisément, les lettres et les demandes d'entrevue personnelle affluent de tous les pays, et leur nombre ne cesse d'augmenter. 75 à 80% de ces requêtes sont un SOS, et j'aurais le goût de donner un nouveau sens à ces trois lettres, S, secours, O, avec un accent circonflexe, S, Seigneur, secours, ô Seigneur. Des écrits ou des démarches de personnes qui, d'une part, constatent que l'Église, dans son style 1 actuel, décline rapidement, dépérit même, et d'autre part, tout en sachant qu'elle passe un style 2 nouveau, plein d'espérance et source de fruits spirituels savoureux, se demandent comment non seulement vivre cette pénible transition, mais mieux encore, comment elle pourrait et devrait collaborer et contribuer encore mieux, si possible, à son meilleur succès spirituel et pastoral. Et comme il m'est absolument impossible de répondre à cette avalanche de requêtes, de courriers et de demandes d'entrevues, j'ai pensé enregistrer sous ce titre les propos que je n'hésiterai pas de vous et de leur partager en entrevue privée, en climat de confiance donc, en présence d'un chrétien ou d'une chrétienne vraiment adulte en sa foi, son espérance et sa charité. Bref, je dirais un peu à la blague, de partager des confidences que je n'oserais pas rendre publiques, du moins en cette portion d'Église vouée encore au style 1 actuel. La douloureuse question qui revient sans cesse est celle-ci. Que faire quand l'exercice de l'autorité à notre égard est clairement faussée, biaisée, est gravement injuste et dommageable, est lourde de conséquences négatives pour notre vocation, notre mission en Église, ou encore pour l'orientation de notre vie et notre croissance spirituelle. Et que tout cela se produit parce que la personne en autorité, l'évêque, notre supérieur de communauté, notre curé, nos agents ou agentes de pastorale, est aveuglé par un grave défaut non corrigé, une blessure non guérie, ou cède à des fautes sérieuses moralement parlant. Oui, concrètement, que faire quand on découvre, après discernement bien fait et preuve à l'appui, que notre chef spirituel est coupable, par exemple, de mensonges graves, d'orgueil, de sérieux manque de maîtrise, d'équilibre émotionnel, qu'il pense et dit obstinément des choses fausses, injustes, non vérifiées, qui détruisent systématiquement la réputation, le ministère, la mission. Oui, encore une fois, la surprise et la déception profonde surpassées, que faut-il faire au juste? Mes frères et mes sœurs dans le Christ, cette question fuse de tous côtés présentement en notre Église. Et tout particulièrement chez les fidèles les plus croyants, brillants, fervents, respectueux de l'autorité et attachés à l'Église, qui veulent éviter tout faux pas, ne rien brusquer ou casser d'une part, et en même temps, d'autre part, ils ne veulent plus suivre ou se laisser guider par tel ou tel chef spirituel, même connu, réputé ou autorisé, qui ne semble pas ou ne semble plus voir, entendre ou comprendre tout ce qui se passe ou se vit en toute vérité et réalité dans une multitude croissante d'âmes, de cœur et d'esprit en Église d'aujourd'hui, en ces temps exceptionnels où nous sommes engagés. Et avant de terminer cette introduction, un mot pour souligner la présence parmi nous de Cristallin. Ceux et celles qui parmi vous ont déjà eu l'occasion d'entendre les quatre interpellations aux Églises, intitulé « Essor ou déclin de notre Église », un album de 8 cassettes, proclamé à la Pentecôte de 1990-1990, ont eu le privilège de faire connaissance avec mon ami de toujours, ce cher Cristallin. Il m'a accompagné tout au long de ses enregistrements sur cassette et, comme vous le savez, il ne s'est pas gêné pour commenter et y mettre, à l'occasion, son grain de sel. Depuis lors, nombre d'auditeurs me demandent si un jour il reviendra ou non nous rendre visite. Eh bien, j'ai la joie de vous annoncer qu'à ma demande, il revient parmi nous aujourd'hui, mais exclusivement pour l'enregistrement de ces deux séries de 4 cassettes chacune, intitulées « Les 10D en l'Église d'aujourd'hui » et réservées aux chrétiens adultes seulement. Pour cette tâche plus que délicate, vous vous imaginez bien que sa compagnie, quoique invisible et souvent silencieuse, me sera quand même appréciable. Vous qui ignorez qui est Cristallin, je vous réfère aux cassettes sur Essor ou déclin de l'Église, où au tout début de la série, j'ai pris le temps de le présenter assez longuement et d'expliquer sa présence. Cristallin, c'est mon alter ego, un autre moi-même, un ami inséparable. Nous partageons depuis toujours tout, y compris la même voix. En guise d'apéritif, et en parenthèse en même temps, pour permettre à ceux et à celles qui ne le connaissent pas encore et leur permettre de se figurer un peu son genre d'intervention, habituellement lapidaire, parfois amusant et souvent inattendu, il me revient tout à coup à l'esprit l'une de ses réflexions fréquentes, quand il dit « Dans la vie, si tomber ou se tromper, c'est bien humain, si regretter se relever, c'est tout à fait divin, en rester là, en bas, c'est vraiment pas malin. » Mes chers amis, si je me fie à l'ensemble des questions que je reçois de tous côtés, dans le courrier, les rencontres, elles se situent, les principales, au nombre de 6, pas exclusivement, mais habituellement et principalement. J'ai donc résolu d'en faire les thèmes particuliers des 6 parties de cette série de cassettes intitulée « Les 10D ». Jetons donc ensemble un coup d'œil sur le feuillet d'accompagnement qui nous servira de feuille de route tout au long de ce partage fraternel. On y retrouve clairement indiqué les 6 parties et leurs thèmes respectifs. 5 de ces 6 parties sont subdivisées en chapitres et au total 20 chapitres. Nous allons aborder dans un instant la première partie sur les 3 proclamations prophétiques de 1992. La deuxième partie, qui va nous entrer au vif du sujet, comment toujours bien nous comporter face aux leaders spirituels qui ne voient pas ou n'entendent pas. Troisième partie, nous reviendrons sur la question de la liberté spirituelle d'enfants de Dieu dans une église de style 1. Quatrième partie, nous verrons quelques explications sur notre ankylose spirituelle actuelle et croissante. Et nous nous demanderons en particulier d'où vient l'anémie spirituelle de tant d'hommes et de femmes d'Église. Cinquième partie, quelques bons conseils d'amis pour bien traverser l'ère en cours de la tribulation-jubilation. Et nous terminerons avec une sixième et délicate question, que les diocèses du style 1 actuel reposent en paix. L'accompagnement en phase terminale des diocèses du style 1 actuel blessés à mort. 10 caractéristiques et symptômes sûrs qui ne trompent pas et permettent de les repérer aisément. Et comment éviter ou cesser d'en être victime? Et peut-on ou doit-on les assister par une bonne onction des malades? Et a-t-on même le droit de souhaiter leur bonne mort? Mes réflexions et suggestions, notons-le bien, comme c'est précisé d'ailleurs sur le feuillet, n'entendent pas recommander des mesures à longue portée pour 10, 20 ou 50 ans à venir, mais plutôt nous donner des conseils pratiques, pratico-pratiques, pour ces quelques années de transition difficile en Église. Et passons, si vous le voulez bien, immédiatement à la première partie et plus spécialement au chapitre 1. Les réactions en cours sont nombreuses et variées et surprenantes. Mes chers amis, on ne peut pas, comme j'en ai eu le mandat délicat, proclamer 3 messages prophétiques de l'importance du Big Bang spirituel, de l'interpellation aux évêques et du vote de confiance en Jean-Paul II, sans en même temps s'attendre à des réactions de toute nature et de toute intensité et en provenance de tous les milieux et niveaux hiérarchiques en Église. J'irai même plus loin, au risque d'en surprendre quelques-uns. Ces réactions, je les souhaite de tout cœur, je les apprécie à fond et même m'en réjouis tout à fait. Je me sens comblé de tout l'ensemble de ces réactions actuelles, autant les mauvaises et les méchantes que les bonnes et les super bonnes. Et cela toujours pour la même raison que vous m'entendez rappeler sans cesse, parce que c'est la fin de la mascarade. Les masques tombent et se déchirent. On voit enfin qui est qui au juste. C'est la fin de l'indifférence, du recto-tonneau, du monotone en Église. C'est le réveil brutal, peut-être, mais le réveil quand même. Et veut pas, le mutisme, l'aveuglement, la surdité spirituelle en Église sont finalement désinstallés. Croyez-moi, malgré ces nuages momentanément sombres, et à l'orage, du moins en certains lieux, pas tous, loin de là, jamais dans ma vie de prêtre, je n'ai connu une joie et une paix, une foi et une espérance, une sérénité et une certitude aussi grandes et aussi comblantes. Les jeux sont faits ou se font. L'Église et le monde se font ravager de plus en plus par un feu de purification sans précédent, où tout ce qui n'est pas de Dieu va être et commence déjà à être expurgé, chassé, foudroyé, alors que tout va renaître en son amour, sa justice, sa miséricorde, sa paix et sa joie, en un feu de gloire divine, cette fois invincible et irrésistible, puissant et éternel. Et c'est dans cette perspective d'ensemble qu'il nous faut voir et accueillir toutes les réactions en cours, même les plus méchantes, qui fusent et fuseront encore de toutes parts. Ses frères et sœurs, même hommes et femmes d'Église prestigieux, avaient et auront besoin, pour leur propre progrès spirituel éventuel, de se révéler ainsi, de conscientiser davantage par leurs déclarations écrites ou orales, par leur comportement, qui ils sont au juste et qu'est-ce qu'ils vivent au juste. Présentement. Avec l'aide de l'Esprit du Seigneur, ils pourront ensuite, beaucoup mieux, repérer l'écart à combler entre leurs dires et leurs agirs de jadis pour se rallier aux vues réelles du Seigneur sur son Église, sa venue et le renouveau du monde. Et ils auront tous, mais tous, la grâce. Je dis bien la grâce, dans la lumière purifiante et pénétrante de l'Esprit Saint, de se réentendre, de se relire, de se revisionner, de se réévaluer tel quel, ce qu'ils ont dit, écrit ou été, et à travers ces constats d'échec, partiel ou total, la grâce de résurrection spirituelle les accompagnera. Réjouissons-nous donc vivement du fait que notre Dieu d'amour et de miséricorde est le seul capable d'aller tirer tant de bien de beaucoup de mal. En parlant de masques, comme dans toute mascarade mondaine, il y a des gens dont les masques sont ou plus beaux que la réalité, que leur vrai visage, ou plus laid que leur vrai visage. Certains masques embellissent avantage la personne, d'autres masques enlaidissent et désavantagent la personne. Eh bien, en Église, c'est la même chose. On a et on va avoir des surprises dans les deux sens, soit en mieux, soit en moins bien qu'on pensait. Il est important d'accorder à ceux et à celles dont les masques tombent le temps suffisant de se redécouvrir eux-mêmes. Une bonne période de transition, d'adaptation, car habitués qu'ils étaient ou qu'elles étaient de fonctionner masqués, il leur faudra sûrement un certain temps ou un temps certain pour se rééduquer et retrouver leur vrai naturel ou leur vrai surnaturel. Selon mon slogan habituel, je vous et nous dis, ayons toujours beaucoup d'exigences sur les principes, mais une très grande indulgence face aux personnes. C'est le temps comme jamais en Église, en cette importante phase de transition du style 1 au style 2, de faire montre d'une façon exemplaire, je dirais même héroïque, de deux grands attributs de Dieu, mis à notre disposition sous forme de dons et de grâces privilégiées si on en fait la demande, la longanimité, c'est-à-dire un haut calibre d'indulgence et de patience qui va jusqu'à l'extrême, et la mansuétude, une très très grande générosité et facilité à pardonner. Il est sûr et certain que le Big Bang spirituel a été une alarme, un réveil matin presque strident pour bien des hommes et femmes d'Église. Accordons-leur donc tout le temps nécessaire pour se réveiller comme il faut, sortir du lit, spirituellement parlant, s'étirer, bâiller, aller se laver, reprendre peu à peu leur sens, se recueillir, et aller librement au petit déjeuner. Et selon les tempéraments et les caractères, mais également selon leur vitalité, leur métabolisme spirituel actuel, cela peut exiger chez certains des semaines, des mois ou des années avant que l'éveil soit complet ou que le sommeil les ait vraiment quittés. J'aimerais maintenant rapidement partager avec vous, comme l'indique le schéma d'exposé, sur trois points. La peur de plusieurs, les réactions épiscopales en particulier, et les réactions apostrophiques. D'abord, la peur. Indépendamment des proclamations prophétiques, ce qui me surprend, c'est le phénomène de peur, avoué ou non avoué, de nombreux hommes et femmes d'Église à l'annonce du retour possible de Jésus. C'est presque pire que si j'avais prédit une invasion d'extraterrestres ou d'êtres infâmes. Certains donnent l'impression d'attendre un Dieu vengeur, un Dieu qui s'en viendrait nous détruire, alors que c'est présentement le contraire. C'est nous-mêmes qui nous démolissons, nous dévorons, nous entretuons les uns les autres déjà, et que lui, au contraire, s'en vient nous libérer, nous montrer comment mieux vivre, nous aimer et nous nourrir et nous inspirer. On rencontre divers types de peurs. La première peur, c'est celle d'être jugé et de devoir rendre compte. Et pourtant, il est dit, je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu sauver le monde. Jean 12, 47. On rencontre également la peur, assez paradoxale, d'être sauvé, car cela présuppose son amour et sa miséricorde divine, et plusieurs se sentent incapables d'accueillir l'amour aussi gratuit et aussi grand. Une troisième peur, conséquence de la précédente, celle de devoir changer sa vie, réviser ses valeurs, ses priorités. Et on me fait signe que le temps est écoulé, nous allons donc prendre une pause et nous continuerons dans un instant.